Eh bien, bonjour à toutes les auditrices et auditeurs du 101.5 de Radio G, également sur le radio-g.fr et pour finir, le DAB+. Aujourd'hui, une émission un peu particulière, un peu délicate, parce que nous venons d'apprendre effectivement le décès de notre ami Daniel, un grand animateur de Radio G, et je tenais à rendre un petit hommage vibrant par rapport à ça, et de tout cœur, nous sommes avec toi Daniel, de la part de toute l'équipe de Radio G. Deuxième étape, une fois n'est pas coutume, j'ai des jeunes actuellement qui sont sur Jalais en association et qui voulaient exprimer leur organisation d'un match de foot le 20 avril à 14h à Jalais. Jalais, c'est une commune de Beaupréau. Ceux qui ont envie de les soutenir, eh bien, rendez-vous le 20 avril à 14h sur le tournoi de foot de Jalais. Et maintenant, parlons de façon concrète vis-à-vis de cette rubrique à l'assaut. Je reçois aujourd'hui deux charmantes personnes qui viennent exprimer, afficher un projet sur lequel elles travaillent. Et j'avoue que c'est complètement atypique et vraiment original. C'est pour ça que c'est un grand plaisir de vous recevoir, mesdames.
Merci beaucoup.
Alors, pourquoi atypique ? Parce que c'est une association qui s'appelle Tomber du Lit et qui ne fonctionne pas comme une association classique, mais comme une association, je dirais, de personnes morales qui est sous forme d'application. C'est tellement atypique que moi, franchement, c'est un réel plaisir de vous recevoir. Alors, je vous laisse vous présenter, mesdames.
Moi, je suis Charlotte, ambassadrice de Tomber du Nid. Et puis, je suis accompagnée de
Élodie. Moi, je suis maman d'une enfant en situation de handicap et bénévole au sein de l'association.
Alors, Charlotte, l'association, donc, Tomber du Nid, quelle est sa raison d'être ? Quel est son projet ? Comment ça fonctionne ?
Eh bien, l'association Tomber du Nid a à cœur de créer un réseau d'entraide de proximité gratuit au service des familles qui ont un enfant en situation de handicap auprès de bénévoles donc de proximité à travers le biais d'une application qui s'appelle Le Cœur du Nid, qui permet donc ce réseau d'entraide.
Alors, c'est une structure de niveau national, parce que nous faisions en amont tout à l'heure le bilan de quelle région cela concernait. On peut faire juste une synthèse de ces régions-là ?
Alors, il y a 6 régions aujourd'hui ouvertes. Il y a Île-de-France, Hauts-de-France, Pays de la Loire, qui ont été les 3 premières régions qui ont ouvert. Donc, c'est assez récent, ça va avoir 2 ans au mois de juin. Là. Ensuite, il y a eu l'Auvergne-Rhône-Alpes. Puis, l'année dernière, a ouvert la Normandie et la région PACA. Et on va ouvrir 3 nouvelles régions cette année, la Bretagne, la Nouvelle-Aquitaine et la Bourgogne-Franche-Comté.
Donc en revenant donc effectivement sur la raison d'être et le projet associatif, c'est un réseau d'entraide de proximité gratuit au service des familles ayant un enfant porteur de handicap. C'est typiquement original et vraiment très humaniste comme raison d'être. D'où vous est venue cette idée, cette volonté, cette passion, si je puis dire ?
Alors l'histoire de l'association, elle vient d'une famille qui est originaire d'Île-de-France, qui après avoir eu 6 enfants biologiques, ont décidé d'adopter un enfant en situation de handicap. Et adopter un enfant en situation de handicap, c'est un réel parcours du combattant. Donc suite à ce parcours, elle a écrit un livre qui s'appelle Tomber du Nid, qui est aujourd'hui le nom de l'association. Et elle raconte tout le cheminement qui a été fait jusqu'à ce que Marie, une petite fille porteuse de trisomie 21, arrive au sein de la famille, d'où aussi le fait que l'association soit tombée au féminin, tombée et eux. Et suite à cette publication de cette histoire, ça a rassemblé une grosse communauté de familles qui sont soit dans le même parcours, soit qui ont vécu un parcours similaire, soit qui ont un enfant en situation de handicap. Et ils se sont rendus compte que nombreuses d'entre elles étaient parfois démunies, en attente, isolées, solitaires.
Alors, et vous, à titre personnel, comment vous est venue cette idée de vous impliquer dans une telle organisation ?
Oui. Alors moi personnellement, je ne connaissais rien du monde du handicap, malgré que ce soit un milieu qu'on côtoie tous les jours finalement On se croise en fait. Donc,
parce que là, c'est quand même un monde très particulier,
oui,
une implication très forte aussi, visiblement quoi. Donc, eh bien, écoutez, en tous les cas, Charlotte, très heureux de vous recevoir ici. Alors, on va parler un peu plus avec Élodie, puisque Élodie, maman d'une enfant handicapée. Comment on traduit ça? Comment on utilise cette application? Comment ça se traduit au quotidien?
Eh bien, l'application, déjà en premier lieu, on peut demander de l'aide sur n'importe quelle situation que nous retrouvons en difficulté au quotidien, ne serait-ce que pour une balade ou pour jouer avec notre enfant. Et du coup, on poste sur l'application cette demande et des bénévoles qui sont autour de chez nous, même un petit peu plus loin, viennent nous proposer cette aide. Et du coup, nous, ça nous donne le moyen de souffler, respirer, ne serait-ce que juste 45 minutes ou une heure, et ça fait du bien. Et on se culpabilise pas aussi derrière d'avoir laissé tomber notre enfant.
Alors, Charlotte, effectivement, c'est une application qui utilise la géolocalisation. Comment s'organise tout ça?
C'est par département. La géolocalisation se passe par département. Ou deux départements si un bénévole ou une famille se situe vraiment limitrophe. Après, c'est simplement la famille poste la demande et le bénévole qui se trouve dans le même département que la famille va recevoir une notification avec cette demande. Et s'il est disponible et s'il correspond aussi au type de demande, il va pouvoir répondre directement à la famille. Ensuite, ça passe en message privé. La famille s'organise avec le bénévole. Et voilà, ça roule.
Alors, votre rôle est ambassadrice.
Oui.
Alors, ça requiert quoi comme compétence? Quelles sont les conditions pour l'être?
Alors, les conditions pour l'être, je pense qu'il faut avoir envie de s'investir plus quand même. Ça demande d'aller chercher d'autres associations, des structures, des professionnels. C'est en grosse partie ça, ce que je fais. C'est contacter les autres associations du style APF, ADAPI, Handicap Anjou, etc., pour essayer d'avoir des contacts avec eux, puisqu'ils sont au contact même de ces familles, et que une famille, pour qu'elle vienne, pour qu'elle puisse bénéficier de ce qu'on propose par l'application, il faut qu'elle ait confiance. Et on pourra mettre une banderole dans le ciel en disant qu'on existe, ça ne fonctionnera pas tant qu'elle n'aura pas... Donc elle n'aura pas confiance finalement, avec un éducateur spécialisé, des choses comme ça, des personnes comme ça. Donc c'est ça, entre autres, une de mes missions à moi, c'est de faire parler de nous auprès des autres structures.
Alors, il faut que je pose cette question, que tout le monde puisse se poser, effectivement. Est-ce qu'il y a des formes de handicap particuliers auxquelles vous ne pouvez pas répondre, ou est-ce que tout est confondu? Quels sont les domaines?
Il n'y a pas de handicap particulier. On s'occupe de tout le monde, même des enfants qui n'ont pas encore été diagnostiqués handicap. On vient là vraiment pour le soutien de la famille, quoi. Avec des enfants qui ont des petits troubles au quotidien.
Alors, comment on vit effectivement le bénéfice de cette application en tant que maman? Quel est le plus que ça apporte?
Eh bien, on se sent moins seul. On se sent moins seul dans un combat qu'on mène depuis la naissance de notre enfant, pour moi particulièrement. Et du coup, c'est un deuxième souffle qu'on a. C'est un deuxième souffle. Parce que c'est toutes les associations ne le proposent pas ça, justement. Et du coup, le monde du handicap peut faire peur. Ça, je sais, pour le vivre. Et du coup, c'est... juste génial, en fait.
C'est quand même tout à fait particulier. Il n'y a que la personne concernée qui puisse effectivement l'assimiler et le comprendre. Ça, c'est évident, quoi. Alors, Charlotte, est-ce qu'on a une idée un petit peu du nombre de personnes? Combien vous avez d'adhérents sur la région? Quel public ça atteint et combien, effectivement, de bénéficiaires?
Alors, dans le Maine-et-Loire, on a environ entre 20 et 25 familles. Et puis, en bénévole, on est entre 25 et 30 bénévoles sur le Maine-et-Loire. Les personnes que ça touche le plus, en tant que bénévole, on a vraiment tout profil. On a pas mal d'étudiants qui vont plus être sur Angers. On a des retraités, on a des personnes en activité ou en transition aussi. Donc voilà, il y a vraiment du 18.
Alors, je vais vous poser la question que je pose à beaucoup d'associations que l'on rencontre qui vivent le même problème. Est-ce que vous avez besoin effectivement de bénévoles? Quelles sont les compétences que ça requiert? Où est-ce que vous êtes suffisamment structuré?
Alors, on a toujours besoin de bénévoles, puisque à l'heure actuelle, on n'en a pas sur tout le département. Donc, nous, on ne va pas aller trop solliciter les structures, les institutions et même les familles. Je vais par exemple prendre le secteur de Saumur. On ne va pas trop aller là-bas pour le moment parce qu'on n'a pas de bénévoles. Ça ne serait pas cohérent de trouver des familles sans qu'elles puissent avoir de bénévoles à proximité. Donc, des bénévoles, oui, ça, on en recherche partout, tout le temps. On n'est jamais assez nombreux, finalement.
Oui.
Et puis les familles tout autant, elles sont les bienvenues, au contraire, ne serait-ce que pour se renseigner.
Alors, si on fait la liste, effectivement, de vos activités, on parle d'aide dans le quotidien, ça, on vient d'en parler au travers du témoignage de vous, Élodie, en tant que maman. L'administratif, fichtre, ça doit être bien compliqué.
Ben oui, pour tout ce qui concerne notamment les dossiers MDPH, mais je pense que ça, tu serais peut-être mieux placé que moi.
Oui, alors en ce qui concerne les dossiers MDPH, donc l'administratif dans tout son domaine, du coup, c'est quelque chose qui est prenant. Il y a toujours besoin de d'excuses ou de... il faut toujours se rentrer en détail, dans tous les détails du handicap. Et du coup, ça peut être très fatigant pour les familles. Donc nous on est là en tant que soutien pour pouvoir les aider, les accompagner pour ce dossier. Moi en tant que personne qui a une enfant en situation de handicap, une maman, du coup je peux aussi les aider sur ce côté-là parce que je vis ça aussi au quotidien. Donc c'est une entraide tout le temps au quotidien en fait, c'est tout le temps en fait.
Malheureusement nécessaire, nous sommes
en France. C'est ça, exactement.
Alors, partage et astuces. Alors là, c'est une interaction entre familles, entre bénévoles, entre familles d'enfants handicapés. Comment ça se passe?
Le partage et astuces, ça va être plus entre les familles. Ça va plus être des petites choses du quotidien où, par exemple, une famille qui déménage dans une autre ville et qui demande aux autres familles du secteur s'il y a un bon orthophoniste, des choses comme ça. Ça peut être d'ordre matériel aussi. Donc, en fait, c'est du vécu, c'est vraiment du vécu au quotidien. C'est les familles elles-mêmes qui sont les mieux placées pour pouvoir se conseiller entre elles.
Alors, nous continuons à évoluer dans la recherche du document que j'ai sous les yeux. On parle d'écoute, de temps de partage et d'écoute bienveillante. Alors ça doit être vraiment important. Comment ça s'organise? Ce sont des relations directes entre les familles ou par votre intermédiaire?
Le temps d'écoute, ça se présente sous deux formes. Il y a celle, finalement, qui fait partie de l'aide dans le quotidien, quand on va au domicile de la famille ou quand on passe du temps auprès de la famille, on est forcément amené à discuter avec elle. La famille va se livre un petit peu, elle nous explique un petit peu comment fonctionne comment se passe la situation, comment fonctionne quel est le mode d'emploi de l'enfant entre guillemets. Là, on est une écoute, ne serait-ce que pour ça. Et puis, ça peut être aussi sous forme d'écoute d'appel où une famille peut solliciter un bénévole à appeler, soit pour le parent lui-même, soit pour l'enfant qui peut éventuellement être en crise. Le dialogue est impossible avec le parent. Dans ce cas-là, ils peuvent solliciter un bénévole pour que l'enfant discute directement avec ce bénévole-là et qui est peut-être plus apte à écouter quelqu'un d'extérieur dans cette situation plutôt que le parent.
Alors, nous continuons dans la progression. On parle de grossesse. Alors, quels sont des périmètres de tout ça?
Alors, la grosse, c'est quand un couple apprend un diagnostic posé sur une grossesse qui peut être parfois extrêmement compliquée. Et là, elles vont pouvoir trouver du soutien via l'application, toujours. Hein, ça, c'est ouvert nationalement. Où elle exprime parfois son désarroi, sa colère, sa tristesse. C'est plusieurs phases. Et des personnes qui sont passées par là vont pouvoir soutenir, épauler et conseiller.
Nouvelle étape, l'adoption. Alors, qui s'en charge d'expliquer effectivement ce process ?
L'adoption, on a une référente adoption qui a adopté un enfant en situation de handicap et qui est là pour suivre avec une équipe de bénévoles, qui est là pour suivre les situations des familles qui souhaitent adopter un enfant en situation de handicap direct quand ils commencent à penser au projet jusqu'à la finalité, jusqu'à l'adoption de l'enfant. Mmh.
Et c'est quelque chose que, enfin, déjà, dans la condition elle-même, c'est déjà très complexe. Effectivement, au travers des enfants dits standards, on va dire, purement simplement, est-ce qu'effectivement, il y a des difficultés supplémentaires, effectivement, quant à l'adoption d'un enfant handicapé ?
Alors, je ne suis pas spécialisée là-dedans, donc c'est vrai que je... Bon, de ce que j'en ai compris, oui, il y a quand même, il faut vraiment rentrer dans l'intimité de la famille. C'est un vrai parcours du combattant. Le temps est estimé entre 1 an et demi et 2 ans. Oui, j'ai l'impression qu'il faut montrer patte blanche.
On imagine.
Oui.
Nous parlions tout à l'heure en amont également des rencontres entre familles. Alors, vous parliez de rencontres périodique un petit peu. Comment ça se structure tout ça ?
Alors, il y a les rencontres entre familles où là, ça va être ce qu'on appelle le nid au cœur de l'application. Là, c'est vraiment les familles entre elles qui vont se donner rendez-vous, boire un café, aller au parc, etc. Et il y a aussi les rencontres entre bénévoles et familles où là, ça va être des temps organisés par l'association. Mais c'est vraiment deux choses distinctes puisque les rencontres entre familles, c'est les familles qui sont motrices de ça.
D'accord. Et puis, ben, effectivement, quelque chose d'essentiel, projet de vie. Alors là, c'est tout un monde. Alors, quels sont, effectivement, ces projets de vie que vous accompagnez ?
Alors, dans le projet de vie, ça va plutôt être les grands-enfants, enfin, ceux qui sont sur le stade presque adulte de 15, 16, 17 ans, où les parents vont se questionner, la famille va se questionner, l'enfant aussi, vont se questionner sur l'avenir, sur le logement, sur le potentiel emploi, sur tous ces aspects adultes, en fait, et pouvoir être accompagné de bénévoles qui sont professionnels, eux, dans leur vie, pour pouvoir accompagner dans ces domaines-là.
D'accord. Alors, Élodie, s'il y avait un message d'espoir quelconque ou d'attente qu'il n'y a pas sur cette application, ce serait lequel ?
Alors, un petit message, continuer.
Est-ce que vous avez des projets, enfin des demandes d'amélioration au travers de cette application, ou est-ce que ça vous convient?
Alors,
non.
L'application en elle-même, elle est très bien. Elle est fluide. On peut très rapidement être en contact avec un bénévole ou nous-mêmes bénévoles être en contact avec des familles. Non, c'est très fluide. Franchement, c'est une très bonne application que tout le monde peut télécharger et peut avoir accès.
Oui, donc ça, effectivement, cette particularité, c'est effectivement ce contact direct. Ça peut limiter l'angoisse, effectivement, de prise de contact par des personnes interposées, personnes physiques ou par téléphonie. Le fait d'une cette application, ça libère effectivement la parole et le besoin, je pense, non ?
Exactement, il y a une vraie autonomie dans la prise de contact directe.
Alors Charlotte, le leitmotiv pour dire saisissez-vous de cette application, ce serait quel mot ?
Mais je pense que c'est les meilleurs témoignages qu'on a, c'est ceux qu'on publie régulièrement sur nos réseaux sociaux. C'est des familles qui sont témoins, qui ont essayé, qui y reviennent, et même si parfois ça met beaucoup de temps avant qu'elles sautent le pas, hein, ce qui est compréhensible, ben elles y reviennent. Donc je pense que ça, c'est toutes les preuves dont les autres familles qui n'osent pas encore ont besoin.
Bon, super. Donc rappelons cette application.
Le cœur du nid.
Le cœur du nid, donc, et de l'association, donc,
Tombée du nid.
Et donc, chaque famille, effectivement, peut se servir.
Donc,
n'hésitez pas pour toutes les personnes qui ont ce cas de figure de situation enfant de handicap.
Exactement.
Et j'en profite 10 secondes parce que là, je viens de recevoir un petit message d'amis à Barré, une association également de très bons vivants. Donc, je leur dis un petit coucou en passant. Voilà, bien, en tous les cas, j'étais vraiment très très heureux de vous recevoir ce midi.
Merci.
Parce que c'est d'une richesse et originalité vraiment tout à fait particulière. Donc, bravo à vous, continuez à vous investir dans tel fonctionnement. Puis quand je vois une maman heureuse qui a ce besoin et,
merci beaucoup.
Et avec le sourire, ça ne peut être que, effectivement, quelque chose de réussi.
Merci
à vous deux d'être venus sur les ondes de Radio G. Nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle rubrique à l'assaut. sur Angers, toutes les associations qui le souhaitent se faire connaître. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas, vous avez une fiche de contact sur le site de la radio. Profitez-en, n'hésitez pas, nous sommes ici pour vous et pour ça. Bon appétit, bon après-midi à tout le monde, un très très bon week-end et surtout, prenez soin de vous.
Ça, c'est partage, culture, art, science, musique, territoire, entraide, bénéfice.